Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canus 102.2 FM, la plus rebelle des radios, et ce soir, comme tous les soirs de la semaine, il est 19h, comme chaque jour de la semaine, et c'est le petit Canu Info du vendredi, avec une thématique anticarcérale, comme un vendredi sur deux. Aussi, on a bien des messages pour les détenus basques de la prison de Corba, de la part de leur famille et leurs amis. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours appeler la radio au numéro du bureau. Donc c'est encore dans 10 jours, le mercredi de 19h à 20h, pour enregistrer les messages qui sont diffusés le vendredi suivant. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses, enfin de la Croatie d'abord, puis parce qu'en Croatie, ils ont encore un petit problème avec les personnes de même sexe, tout comme ici, et là-bas, ça prend des tournures un peu chiantes. Ensuite, on parlera de la campagne nationale pour le refus du fichage ADN lancé à Nantes cette semaine. On reviendra sur Lyon pour parler du Grand Stade, et encore un petit revers pour Colomb. Ensuite, on parlera de la mobilisation à Lyon pour l'indépendance du Baloutchistan qui a eu lieu cet après-midi. Et après ça, on entamera la petite chronique anticarcérale avec le compte-rendu du procès de l'incendie du centre de rétention administrative du Canet, près de Marseille, et aussi de la misère des unités de vie familiale dans les tôles, pour enfin vous faire part d'un communiqué des familles et amis détenus basques à Lyon-Corba. Avant de passer au traditionnel bref de détention, bref d'évasion et les messages. On commence tout de suite avec la Croatie et le référendum qui va avoir lieu le 1er décembre, donc dans 3 jours, contre le mariage de personnes de même sexe. Donc la Croatie, vous voyez, c'est dans l'est de l'Europe, tout juste en face de l'Italie, au bord de la mer Adriatique, entre la Slovénie et la Bosnie. C'est un petit pays de 4 millions d'habitants. Et cette année, il y a eu une initiative un peu folle, parce qu'il y a un groupe conservateur qui s'est appelé Au nom de la famille, s'il vous plaît, qui a rassemblé une pétition de 700 000 signatures pour demander que le mariage soit dans la Constitution une union entre un homme et une femme. La situation aujourd'hui les personnes de même sexe qui veulent former des couples en Croatie est assez compliquée. Parce qu'il y a l'équivalent d'un PACS qui a été adopté en 2003 et c'était qui donne à peu près les mêmes droits aux personnes homosexuelles qu'aux personnes hétérosexuelles quand elles sont en couple et quand elles sont en union libre, mais pas du tout les mêmes droits que quand elles sont mariées. Alors il y a une mobilisation pour obtenir le mariage gay et lesbien en Croatie. Depuis 2002, il y a des gay prides qui sont chaque année le théâtre d'affrontement, parce qu'il y a toujours des fachos qui attaquent les personnes qui défilent. Et cette année, les fachos ont décidé de passer au niveau supérieur, au niveau des droits, et de faire cette constitution, 700 000 signatures pour un référendum qui aura lieu le 1er décembre. Donc le 1er décembre, ce sera le premier référendum d'ailleurs de l'histoire de la Croatie en tant que république indépendante. Ce référendum sera en fait simplement la question: voulez-vous que le mariage dans la Constitution ne soit possible qu'entre un homme et une femme? Et on s'attend, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un oui qui s'en démarque et que du coup le mariage soit bien interdit en Croatie pour les personnes homosexuelles.
Donc maintenant, on va apprendre quelques nouvelles sur la campagne nationale pour le refus du fichage ADN.
Est-ce qu'on revient dans les infos nationales? Et de fait, tout sous peu, c'est-à-dire le 3 décembre, il va y avoir un énième procès pour un refus de prélèvement ADN. Ce énième procès aura lieu à Rennes par une de la personne qui est accusée d'avoir refusé son fichage ADN, le prélèvement génétique en garde à vue, est une personne militant contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et contre son monde aussi. Elle a été arrêtée pendant une action collective. Elle est passée une première fois au tribunal et là, ça va être l'appel qui va être jugé. Rappelons que le fichage ADN, aujourd'hui, c'est 2 millions de profils dans le FNAEG, dans le fichier national des empreintes génétiques. 2 millions de personnes donc qui sont fichées et 30 000 de plus par mois. Alors, tout bientôt, on sera à 3 millions, puis à 4. Parce que les flics, depuis une dizaine d'années, ne se gênent plus et demandent un prélèvement ADN à peu près toute personne qui rentre en garde à vue. Du coup, dans ce cadre-là, il y a une semaine nationale d'information et d'action contre le fichage ADN qui est lancée autour de Nantes et Rennes et va essaimer sûrement, on espère, un peu dans toute la France. Voilà, il faut s'attendre à des petites mobilisations autour de ça la semaine prochaine. Et maintenant, on va s'écouter une petite musique. Alors, je ne sais pas ce qu'on nous a préparé. Allons-y.
Donc vous êtes toujours sur les ondes rebelles de Radio Canus 102.2, c'est le Canu Info du vendredi. Alors tout à l'heure j'ai vu un rassemblement au terreau, tu peux me dire un peu qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?
Eh oui, c'était pas très nombreux, Yael était pas très nombreux, et c'était la mobilisation de la diaspora du Baloutchistan en Rhône-Alpes, qui diaspora qui vit surtout entre Grenoble et Lyon. Ces personnes-là se sont mobilisées et sont toujours mobilisées depuis 50 ans maintenant pour l'indépendance de leur pays, le Baloutchistan. Le Baloutchistan, c'est quoi ? C'est une province pakistanaise et c'est un pays à cheval entre l'Afghanistan, l'Iran et bien sûr le Pakistan, au bord de la mer d'Oman, pas loin du détroit d'Ormuz. Du coup, ce pays-là, il est occupé par le Pakistan depuis 1947. Et 1947, ça correspond à la date de création du Pakistan, du coup, depuis que le Pakistan a été créé. Le Baloutchistan, c'est une province qui est à l'intérieur du Pakistan et qui représente quand même près de 40% de la taille du territoire national du Pakistan. Donc c'est immense, c'est la superficie de la France. Mais c'est très très peu peuplé parce qu'il y a moins de 5% de la population du Pakistan qui vit dans ces 40% du territoire. Ça fait environ 18 millions de Baloutches dans le monde, dont une dizaine au Pakistan, et le reste réparti entre l'Iran et l'Afghanistan. Ce pays-là, il faut remonter à 1947 donc, et la décolonisation de l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh par l'Empire britannique pour voir la dernière fois où il a été indépendant. Ça n'a pas duré longtemps. Parce que quand la Grande-Bretagne s'est retirée de la région et que les colonies se sont libérées, à ce moment-là, le Baloutchistan a existé et comprenait du coup une structure étatique. Et C'est au moment où l'Inde s'est séparée du Pakistan et du Bangladesh que le Pakistan en a profité pour récupérer ses immenses territoires très peu peuplés à l'ouest de l'Indus. Depuis lors, il y a la population qui se mobilise pour l'indépendance. Il y a eu énormément de révoltes, beaucoup par exemple en 48, en 68, en 74, 99, 2005. Et depuis 2005, il y a 125 000 personnes qui ont été déplacées à la suite des bombardements de l'armée pakistanaise contre les villages du Baloutchistan. Il y a énormément de disparus aussi. Il y a 14 000 personnes disparues au Baloutchistan pendant les 10 dernières années, depuis le début des années 2000. Et la population reste mobilisée. Alors voilà, c'était un peu pour la mobilisation d'aujourd'hui. C'était pour appeler une certaine solidarité internationale pour ce peuple-là. On continue à Lyon, mais cette fois, on reste vraiment dans Lyon. Parce qu'on va vous parler du Grand Stade. Enfin, le Grand Stade, c'est pas exactement dans Lyon, c'est plus à Décines. Mais ça concerne beaucoup le maire Collomb qui vient de se faire prendre un bon revers parce qu'il s'agit toujours de problèmes du prolongement de la ligne de tramway T3 jusqu'au Grand Stade, au futur Grand Stade de Lyon. Là, en première instance, c'était le 10 avril, le tribunal administratif avait rejeté le fait que cette ligne de tramway soit d'utilité publique, donc avait annulé la déclaration d'utilité publique. Et rebelote, c'était mercredi, en appel, la cour d'appel administrative a à nouveau rejeté la déclaration d'utilité publique du tramway, au motif que les financements sont sous-estimés, que les travaux sont pas du tout prévus comme ils devraient l'être. Et voilà, bon, c'est des trucs procéduriers, mais ça fait quand même chier le Grand Lyon et Collomb, son président. Parce que ça retarde d'autant les travaux, parce que aussi ça retarde les financements, parce que ça retarde tout son petit plan. Et maintenant, on va s'écouter encore un petit peu de musique avant de passer à la thématique anticarcérale.
I need a kiss. Why can't I get just one screw? Why can't I get just one screw? Believe me, I know what to do, but something won't let me make love to you. But just one day after day, I get angry, and I will say that the day is in my sight. When I take a bow to say goodnight. Oh, my mama, mama, oh, my mom, have you kept your eye on your son? I know you've had problems, you're not the only one. When your sugar left you on the run. So mow my mama, mama, mow my mom. Take a look now, look what your boy has done. He's walking around like he's number one. He went downtown and he got all my guns. Don't shoot that thing at me. Don't shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot that thing at me. Don't shoot that thing at me. Shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot that thing at me. Oh, the stairs. Can I mix in with your affairs? Share a smoke, make a joke, grasp and reach for a leg of hope. Words to memorize, words hypnotize, words make my mouth exercise. Words all fail the magic prize. Nothing I can say when I'm in your thighs. Come on, my mother. I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce. Go in your bedroom, ounce for ounce. And oh, my mother. I would love to love you, love. The city's restless, it's ready to pounce. Go here in your bedroom, ounce for ounce. I've given you a decision to make. Things to lose, things to take. Just as about ready to cut it up. Wait a minute, honey, I'm gonna add it up.
Donc vous êtes toujours sur le 102.2, le Canu Info du vendredi. On vient d'écouter un morceau du groupe Violent Femme, Add It Up. Comme une fois sur deux, le vendredi, c'est une formation anticarcérale. Donc maintenant, il est temps, il est place à parler des prisons.
Et on commence avec le petit compte-rendu du procès de l'incendie du centre de rétention administrative de Marseille, du Canet à Marseille. Et là, ça a été un procès assez fou. Alors, pour vous rappeler un peu, mars 2011, il y a 2 ans et demi, il y a le centre de rétention administrative du Canet qui a pris feu et qui a été complètement brûlé. À cette occasion-là, donc c'était toujours des personnes migrantes qui n'ont pas de documents en français, qui n'ont pas d'autorisation d'être sur le territoire, qui s'enfermaient là-dedans. On dit que ce n'est pas des prisons, mais en vrai, ça a tout l'air. Et cette fois-là, les détenus retenus se sont rebellés, ont foutu le feu au centre d'administration. Et ils passaient, c'était mardi, au tribunal de grande instance de Marseille pour, tenez-vous bien, destruction de biens d'autrui par des moyens pouvant entraîner la mise en danger des personnes. Voilà, il n'y avait pas eu de blessés pour le coup. Toujours est-il qu'au tribunal, il y avait surtout énormément de flics qui remplissaient la salle, qui remplissaient les couloirs du tribunal, qui remplissaient les abords et les rues du tribunal avec leurs cartes de CRS et tout le bordel. Mais ça n'a pas empêché de nombreux soutiens, de nombreux militantes à venir soutenir les inculpés. Les deux inculpés comparaissaient libres, ils avaient fait quelques mois de prison préventive en 2011, juste après les faits, mais depuis, ils pouvaient sortir et étaient en contrôle judiciaire. Comment ça s'est passé, cette audience? Le juge, du coup, a commencé par appeler les témoins en, par exemple, la directrice du centre. Et la directrice du centre, elle est arrivée un peu comme une fleur, en disant « Ah, mais en fait, je ne veux pas être témoin, je vais être partie civile et je demande 1 euro de dommages et intérêts. » Ça ne se fait pas trop, mais on lui a passé ça pour la forme. Elle a été entendue en tant que partie civile. Et là-dessus, elle a dit plutôt qu'il y avait eu plein d'exercices incendies, que les réfugiés qui avaient foutu le feu étaient complètement excités, et tout ça, et tout ça. Et la juge, en fait, elle paraissait hyper stressée. Cette directrice du centre, un peu comme moi, elle paraissait hyper stressée, et du coup, la juge, elle n'a pas manqué de lui faire remarquer que c'était bizarre qu'elle soit aussi stressée, alors qu'en fait, elle était témoin, maintenant elle est partie civile, elle devrait être plutôt confiante, elle va gagner des sous. Et voilà, et du coup, c'est bizarre qu'elle apparaisse aussi stressée. Et là-dessus, il y a le second témoin qui rentre, il s'agit d'une chargée d'opération de l'association Forum Réfugiés. Et point par point, elle démonte tout ce qu'a dit la directrice du centre, notamment en démentant le fait qu'il y ait eu, depuis l'incendie, des exercices incendies. à l'intérieur du centre et des exercices d'évacuation. Elle dit aussi qu'elle avait rencontré l'un des inculpés dans son bureau le jour de l'incendie, le matin même, et elle voyait comme complètement calme, alors que c'est souvent que les détenus sont hyper anxieux, menacent de se suicider, tout ça, ou de détruire le centre s'ils ne sortaient pas, alors que là, ce jour-là, bon, il était calme, comme d'ailleurs souvent, parce qu'apparemment, c'était des gens assez calmes. Ensuite, c'est après les parties civiles et les témoins, c'est le procureur qui a pris la parole. Et alors là, ça a été complètement fou. Toutes les militantes dans la salle ont halluciné parce que je vais vous faire des citations de procureurs et pour une fois, ça ne va pas être insultant. Je commence. Elle a commencé par dénoncer le fait que le contexte de politique migratoire répressive en Europe, l'Europe forteresse, la libre circulation des marchandises mais pas des personnes, la répression des migrations qui n'empêchera jamais hommes, femmes et enfants de fuir la guerre, la misère économique ou une absence de perspective, la criminalisation de l'irrégularité administrative, l'injustice de la répression que subissent les gens qui se sont intégrés ici, ont fondé une famille, travaillent. Alors c'est complètement fou qu'une procureure comme ça dénonce l'Europe forteresse. Elle continue en saluant le travail des associations qui veillent à ce que les droits soient respectés et leur vigilance qui permet de ne pas basculer vers une situation trop répressive. Ces associations qui n'ont pas manqué de soutenir les inculpés et qui sont aujourd'hui présentes dans la salle. C'est fou quand même, une procureure qui tient des discours comme ça, on ne l'a jamais vu de mémoire de procès. Ensuite, la procureure a cité un rapport du Sénat, un autre du contrôleur général des lieux de privation de liberté, pour dire que le centre de rétention du Canet était hyper vétuste, l'hygiène n'était pas respectée, il n'y avait pas de soutien psychologique, il n'y avait pas de vêtements distribués, il n'y avait pas de mise aux normes du système anti-incendie. Elle finit son réquisitoire, qui est théoriquement contre les inculpés, en insistant sur le fait qu'ils ont vraiment l'intention de s'intégrer dans la société française et qu'ils ne posent pas de problème. Alors voilà, là-dessus, elle réclame quand même un an de prison ferme avec un sursis de 4 mois. Alors, c'est des gens très bien, ils vivaient des situations complètement dégueulasses, mais elle reste une procureure et elle demande à les envoyer pour 8 mois en prison avec un sursis de 4 mois en plus. Là-dessus, l'avocat des inculpés a fait son plaidoyer et rapidement, il a dit à peu près la même chose que la procureure, ce qui est, bon, bah, vu la situation, il ne pouvait pas faire autrement. Et à la fin, la juge a prononcé le verdict et là, elle a mis un an ferme pour chacun, ça veut dire plus que ce que la procureure avait requis. En revanche, avec un an, il y a possibilité encore d'un aménagement de peine avec un bracelet électronique ou d'autres trucs. Et du coup, il y a des chances que s'ils ne retournent pas en tôle, mais qu'ils fassent plutôt leur tôle à la maison, comme des milliers d'autres personnes qu'on enferme chez elles avec un petit bracelet qui bip dès qu'ils sortent au-delà de la porte d'entrée. Voilà pour ce qui est du procès de l'incendie du centre de rétention administrative du Canet. Alors, c'est un procès qui n'est pas pire comparé à plein ce qu'on pouvait s'attendre, quoi. Voir les années de prison tomber et tout ça. On continue, pardon, maintenant avec le centre de détention du ZERC et les unités de vie familiale. C'est quoi les unités de vie familiale? C'est des parloirs familiaux et qu'on a appelé dans les médias des fois parloirs sexuels parce qu'ils permettent d'avoir de l'intimité entre la personne détenue et les proches qui la visitent. Et du coup, une intimité qui peut durer entre 6 et 72 heures dans des petits appartements à l'abri du regard et aménagés de manière à pouvoir se faire à bouffer, de manière à pouvoir mener une certaine semblant de vie ensemble pendant les quelques heures passées dans des endroits complètement aseptisés et quand même très sécurisés. Ils ont été vendus en 2010-2011 comme le top du top, le nec plus ultra de la tôle et du respect des prisonniers, sauf que là, ce mois-ci, l'OIP, l'Observatoire international des prisons, observe que celui du ZERC, il a été ouvert en 2011. Il y a 3 appartements comme ça. Ils n'ont jamais fonctionné. Et du coup, c'était juste une opération de communication qui servait à que dalle. C'est les unités de vie familiale, il n'y en a pas dans toutes les tôles. Il y en a dans 28 tôles sur les 200 qui sont en France. Et Le ministère, il dit toujours qu'il va en construire des nouveaux pour que chaque prison soit occupée. Sauf qu'une fois encore, les fonds alloués pour la construction des unités de vie familiale ont diminué et du coup, on n'imagine pas du tout comment les prisons pourront en être occupées. Et en plus de ça, de toute façon, une fois qu'ils sont là, ils ne sont pas utilisés et personne n'a le droit de les utiliser. Alors voilà pour la petite arnaque du jour. On continue sur le 102.2 Radio Canu. Avec maintenant un petit SOS des familles et amis des détenus basques à Lyon-Corba. On va vous lire ce SOS parce qu'il nous paraît important. Parce qu'il vient des proches des personnes incarcérées à la prison de Corba, que ces personnes-là ont vécu un petit enfer pendant le mois de septembre et le mois d'octobre. Aussi parce qu'il y a eu des proches qui se sont mobilisés il y a fin octobre en portant des t-shirts avec marqué dessus Pompigne torsionnaire, entre autres choses. Pompigne, c'est le directeur de la prison de Corba. Que ces personnes sont passées en procès cette semaine et comme vous l'avez vu au Canu Info de mercredi, elles ont été relaxées. Du coup, elles ne seront plus poursuivies pour outrage, mais en revanche, la mobilisation continue auprès de ces détenus-là parce que leurs familles et leurs amis font parvenir des lettres de soutien.
Donc la lettre de la famille et des amis des prisonniers politiques basques de la prison de Lyon, SOS. Le centre de détention de Corba à Lyon est une prison cruelle qui cherche à bafouer la dignité des personnes en les obligeant à vivre dans des conditions inhumaines. La prison de Corba applique une politique pénitentiaire qui a pour seul but la destruction des détenus, l'oppression, l'isolation et la torture psychologique son quotidien. Pour démontrer le vrai visage que nous avons évoqué de la prison de Corba, nous pouvons prendre en compte que la dite prison, en 2012, a le taux de mortalité le plus haut entre toutes les prisons de l'État français. La situation des prisonniers politiques basques incarcérés à Lyon est tout aussi déplorable. Depuis 2011, les premiers prisonniers politiques basques incarcérés à Lyon, qui sont nos proches et amis, ont effectué plusieurs luttes au sein de l'établissement pénitentiaire dans le seul but d'obtenir une amélioration des conditions de vie. Malheureusement, la direction et les fonctionnaires de surveillance ne cessent de vouloir leur enlever le peu qu'ils ont réussi à obtenir. Pour faire face à ces attaques, les prisonniers politiques continuent de lutter dans un cadre qui leur est complètement hostile. Rassemblement dans la cour, refus de prendre le repas, blocage de la promenade, affichage dans les fenêtres et murs, etc., etc. La réaction des fonctionnaires de surveillance est aussi à dénoncer. Ils s'opposent à l'amélioration des conditions de vie et donc s'interposent devant les multiples demandes des prisonniers politiques basques. Nous voulons également rappeler qu'il y a déjà eu une tentative d'attaque physique contre un membre du collectif des prisonniers politiques basques.
Dans ces conditions, et dans le but que les choses changent, les prisonniers politiques basques incarcérés à Lyon ont décidé de refuser de rentrer dans leurs cellules respectives. La réaction de la direction fut immédiate. Des policiers anti-émeutes ont violemment et de force rentré nos amis et proches dans leurs cellules en provoquant des blessures et contusions. Nous aussi, en tant que visiteurs, visiteuses et proches des basques incarcérés à Corba, avons subi le totalitarisme et la cruauté de la prison. Trois d'entre nous ont vu leur visite supprimée pour avoir porté des t-shirts revendicatifs. Et en plus, ils ont risqué, le 25 novembre dernier, un an de prison et 7000 euros d'amende. Pour dénoncer ces faits et en général cette affreuse situation, nous avons décidé de mettre en marche une campagne de sensibilisation et de dénonciation en envoyant massivement des lettres aux différentes institutions et administrations qui sont concernées dans l'affaire évoquée jusqu'à présent. Nous leur avons également envoyé une pétition qui, en très peu de jours, a réuni plus de 1000 signatures. Le 19 novembre dernier, une représentation des familles et proches des prisonnières politiques basques a rencontré le directeur du centre pénitentiaire de Lyon-Corba. Le directeur leur a promis que les néfastes épisodes de ces derniers mois ne vont plus se reproduire. C'est pour cela que nous avons annulé la marche qui était censée aller du Pays Basque jusqu'à Lyon le week-end du 30 novembre. Tout de même, nous restons attentifs à la réaction de la prison et surtout de la direction et des surveillants. Si les conditions de vie de nos frères et sœurs ne changent pas, nous serons dans l'obligation d'agir. Via ce communiqué, nous exigeons le respect des droits des prisonniers politiques basques. Signé les prisonniers politiques basques au Pays Basque. Enfin, pas signé, mais plutôt revendiqué. Et signé des familles et amis des prisonnières politiques basques de la région lyonnaise. Voilà. Pour ce qui est de cette situation, ensuite on va s'écouter un petit morceau de musique sur le Canu Info du vendredi soir, les petites brèves et nous passerons au message et à l'agenda.
On est toujours sur les ondes rebelles de Radio Canu 102.2, le Canu Info du vendredi, anticarcéral. On vient d'écouter un morceau de Valina, un groupe autrichien de Vienne, en Autriche donc, qui s'appelle Ace Window.
Et maintenant, on passe au traditionnel bref de détention qui montre un peu toutes les résistances individuelles et collectives qu'il y a au système carcéral, souvent à l'intérieur des prisons, mais aussi à l'extérieur, pour montrer que ces prisons-là qu'on dit comme la vie, il va bien, et tout ça, pour montrer qu'en fait, non, la vie, il va mal, et que oui, les personnes qui sont enfermées ne supportent pas d'être enfermées.
Les brèves d'évasion. Pendant le typhon, oui ?
Non, on va plutôt faire d'abord les brèves de détention, et ensuite on fera les brèves d'évasion.
Garde le meilleur pour la fin.
Voilà, c'est ça.
Donc, le 18 novembre, les matons de Bresse ont bloqué la prison. 3 jours plus tard, ce sont les matons de la prison de Cèze qui ont bloqué la détention. Apparemment, les rags de tout poil ne supportent pas la suppression des fouilles au corps systématiques des détenus et préféreraient que ces traitements persistent malgré qu'ils soient considérés comme inhumains et dégradants selon la Cour européenne des droits de l'homme.
Le lendemain, le 19 novembre, 11 détenus ont refusé ensemble de remonter de promenade dans la prison de Bourges. L'administration pénitentiaire a envoyé des IRIS, en gros c'est GIGN en pire, qui matent les mutineries en tôle. Mais, comme d'habitude, l'AP n'a pas communiqué sur les raisons de la rébellion. 4 jours plus tôt, c'était 2 détenus enfermés au mitard qui avaient mis le feu dans leur cellule dans cette même prison de Bourges.
Le même jour, en Bulgarie, les migrants enfermés dans le camp d'Armanli, ont protesté contre leurs conditions de détention. Ils et elles ont menacé de lancer une grève de la faim. En effet, plus de 1000 personnes sont enfermées dans les conteneurs et les tentes non chauffées et ne disposent que de 3 chiottes en tout. D'autres actions sont à venir.
Dimanche dernier, il y a eu un mouvement à la tôle de Cayenne. Cayenne, c'est en France, mais c'est loin de la France. Le repas de midi était frelaté et comme on peut s'y attendre, les détenus n'ont pas apprécié. Sauf que là, c'est parti en mutinerie avec les meubles des cellules balancés sur les toits de la prison et des barricades sont apparues dans la détention pendant toute l'après-midi. Big up.
Le même jour, un drone a survolé la prison de Hull au Québec. Il était destiné à balancer des colis dans la cour de promenade pour que les détenus le récupèrent. Il n'y a pas eu d'arrestation et c'est une preuve que la technologie n'a pas que du mauvais. Les drones, bien utilisés, peuvent être utiles aux prisonniers.
On continue avec l'Australie. Cambrioler une tôle, j'ai bien dit ça, ça ne vous est peut-être jamais venu à l'idée. Mais il y a 2 personnes qui ont tenté l'exploit lundi dernier. À 5h du mat, elles ont défoncé le portail de la tôle de Risdon en Australie avec un pick-up, puis ont défoncé le hall d'entrée avec le même pick-up. Elles n'ont rien trouvé à chourer et sont reparties bredouilles, mais les flics ne les ont pas retrouvées.
Tout au long du mois de novembre, les protestations n'ont pas cessé dans la prison de Tisnit en territoire marocain. Là sont enfermés de nombreux Sahraouis, peuple habitant du Sahara occidental colonisé par le Maroc au XXe siècle. Ils sont largement maltraités dans cette tôle marocaine et ont effectué de nombreuses grèves de la faim allant de 5 à 21 jours, ainsi que des mouvements de protestation collective.
C'était la dernière brève de détention et on va parler maintenant les brèves d'évasion pour montrer que partout dans le monde et en France en particulier, il y a des personnes qui tentent et arrivent à s'échapper des prisons, à sortir de leurs cellules, grimper les murs ou trouver plein de combines pour se casser.
Donc brève d'évasion, pendant le gros typhon Ayan qu'il y a eu là, il y a quelques semaines aux Philippines, là, les 8 et 9 novembre, 2013, 583 détenus se sont évadés d'une même tôle à Lette. Cette semaine, une petite moitié avait réintégré la prison après avoir rendu visite à leur famille. Ça veut dire quand même qu'une grosse moitié n'est pas pressée de retourner derrière les barreaux. À l'heure actuelle, ils et elles ne sont pas considérés comme des fugitifs compte tenu des circonstances exceptionnelles.
En France, le 15 novembre, c'est un détenu qui s'est évadé de la tôle de Béthune en passant ses menottes autour du cou d'une matone, puis en lui prenant les clés pour se faire la malle. Les flics le recherchaient et apparemment, il n'avait pas bien prévu sa cavale puisqu'il s'est rendu de lui-même 10 jours plus tard dans un commissariat.
Le 15 novembre, pendant une fouille, dans la prison de Plomeur en Bretagne, les matons ont découvert 10 de téléphones, mais aussi une corde longue de 5 mètres tressée avec des droits. Des draps. Apparemment, les quelques jours de préparation de l'évasion étaient de trop.
Loupé. Dans la nuit du 22 au 23 novembre, 4 personnes se sont évadées de la tôle de Derbyshire au Royaume-Uni. On ne sait pas comment elles ont fait, on leur souhaite une belle et longue cavale.
S'évader en pyjama, ça a une certaine classe. Un détenu de la tôle des Baumettes à Marseille était en consultation à l'hôpital le 23 novembre. Il en a profité pour menacer le personnel avec un cutter et se barrer. Il a malheureusement été rattrapé quelques minutes plus tard dans le quartier. Peut-être qu'il n'avait pas prévu de change.
Le même jour, c'était le 23 novembre, en soirée, ce sont 7 détenus de la prison de Drenova en Albanie qui se sont évadés après avoir désarmé les gardiens. Ils sont enfuis en voiture, mais 4 d'entre eux ont été repris. En ce qui concerne les 3 autres, ils ont continué leur cavale avec des moyens de transport hors du commun. Notamment, c'est à dos de mulets qu'ils ont traversé la frontière pour passer en Grèce. À l'heure actuelle, ils courent toujours.
Il y a 2 jours, mercredi, c'était la journée de la prison à Bayonne. Avec du beau monde et des militants aussi. Un détenu ne s'y est pas trompé et la nuit précédente, il a réussi à arracher la fenêtre de sa tôle dans la tôle locale. Il avait prévu des draps nécessaires pour descendre de la façade en rappel, mais les matons l'ont arrêté trop tôt.
Loupé. Mercredi matin, c'est le même jour, un détenu de la maison d'arrêt de Nantes a profité d'un transfert à l'hôpital pour s'évader. En arrivant à l'hosto, il a blessé 3 matons avec un cutter, décidément. Il s'est échappé de l'hôpital et un complice en scooter l'a emmené au loin. Le lendemain, les matons ont bloqué les maisons d'arrêt de Nantes.
Cet après-midi, aujourd'hui, vendredi, environ 120 migrants ont pris d'assaut la frontière qui sépare le territoire marocain de l'enclave espagnole de Melilla. Une quarantaine aurait réussi à traverser les 3 barrières barbelées de 6 mètres de haut en pleine journée. Une quarantaine.
Et voilà pour ce qui est des brèves de détention et des brèves d'évasion. Et maintenant, on va pouvoir écouter les messages destinés aux détenus basques de la prison de Corba. Tous les autres proches de détenus peuvent aussi nous appeler. En attendant, voilà, bonne écoute.
Askatasuna, les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières, la répression des États non plus. L'autodétermination des peuples, des langues, est à défendre, à soutenir, à combattre pour. Nous laissons la parole aux familles de prisonniers et prisonnières basques. Nous parlons de ce qui se passe là-bas au Pays Basque. De ce qui se passe ici dans les tôles de Corba, Villefranche, Roanne. Parce que les luttes n'ont pas de frontières ni de murs. Askatasuna. Liberté et solidarité.
Apa, Xavi, amen, besarka handi bat, amen, ondarrutik, eh? La hostia, el pigodor, la hostia. Venga. Amen, ekipatu, amen, anaita aurrik, amen. Eta la hostia, dano, basa, en pipa gaten gaten, nengi zai, la hostia. Subame, Jose, y ame, Jose, venga, va.
Besarka handi bat, Xavi, venga.
Apa, besarka handi bat, Xabi, de kide guztiai, animo eta epsi gore eta aurrea, eh? Bueno, onatxirik amaitzen dugu, eh? Onatxirik amaitzen dugu eta ia gor, eh? Horratzen kide guztik eta preso politiko guztik, eh? Apa, Xabi, la hostia!
Apa, Jone, Xavier, Reider, Urko eta Aletxu. Bueno, a ver, beretasun bizkoa taiatzen zaizuen gogorri hontan, hemendik hautza. Animo eta ongi lili. Aio, aroa, leitzetik.
Ape, arratsaldeon, Eider, Xavier eta kompainia, oiernaz, Durangoko oier, Eider, a ber, ezagitea, akordauko zaren, ja urte pilua izan da, ez? Azkenen maldiz egon ginenetik, baina, bueno, danontzako mezu bada hau, ez? Mezu musu bat esan geinke, ezta? Eta, bueno, hemen Durangotik edo momentu honetan Leioako fakultateko liburutegi eskina batetik, ba, ez? Hor zau esenei, ba, bueno, ez dakit, ba, animuek edo hortik pasau garenok, ez? Ni bizilaguna izan nintzen, ez? Villefranceko espetxean, ordun, bueno, hango hotzak berai nozitu nintun tartetxo batez, eta ordun, ba, bueno, ez dakit, ja, mezu honek, ba, epeltasun edo berotasun apur bat helarazten dotzuen, eta, ba, bitu, oine, ba, bizen momentu gozo batzuk bizitzen Euskal Herrien, beste espetxatutan hain gozoak ez diren momentuak, baina, ez dakit, ba, guk geuk edo, ez, hemen lanien gabiltzanok ikusten dugu lanerako edo lanean jarraitzeko arnaza bezala, ez, azken asteotan gerratu dian kaleratzeak ze. Kaleratzeekin batera, bebai, beste espetxatutan, ba, bueno, borrokan jarraitzen dozue, eta zueke borrokan jarraitzen dozuen bitartean, guk kanpoan borrokan jarraituko dugula jakin deizuen, eh? Eta batez be, ez dakit, asko maite zaituegula, Eider, egoten az, txapugaz, ez? Bera da bilor zure terrenuek edo zaintzen, bueno, ba, guk hemen ez dakit, ja, danon terrenuek zainduko dugu zen edo zaintzen lortuko dugu, baina jarraituko, ez? Lanien eta, bueno, ba, zuen buelta rentzain edo zuen buelta borrokatzen, ezta? Ze, hamen gutxinez batzuk ez dugu aztu, ze, azkenen gue urten arte ez garela geldituko, eta hori argi nonki, bale? Venga, pues, musu pilo bat eta animo da nori, bale? Borroka jarraituko. Venga, musu, agur!
Bonsoir, c'est toujours le Canu Info du vendredi sur 102.2 FM, la plus rebelle des radios. Et j'espère, voilà, pour les petits messages aux détenus de la région lyonnaise. Et maintenant, on va continuer avec un bout d'agenda, parce qu'il se passe plein de choses sur Lyon, en dehors des murs des prisons en ce moment. Et on commence avec ce soir, c'est 20h dans 10 minutes à l'atelier des canulars, 91 rue Montesquieu, métro Saxe-Gambetta, avec une soirée sur antispécisme et convergence des luttes, projection du film 101 raisons de devenir vegan de James Willman, puis bouffe vegan et discussion autour de l'antispécisme, l'homophobie, le racisme et le sexisme. C'est tout à prix libre à l'atelier des canulars. Ce soir aussi, à la même heure, alors c'est à 20h30 à la Plume Noire, plus près de Radio Canus, et le 8 rue Diderot, les pentes de la Croix-Rousse, avec une projection du film Tambien la Lubia, pardon, sur les luttes contre la privatisation de l'eau en Bolivie, avec un prix libre, pareil que l'atelier des canulars.
Toujours ce soir, au TAV, c'est à côté de l'hôpital de Grange-Blanche, hein, l'hôpital Édouard Herriot, au 19 rue Roux-Soignat. 19 rue Roux-Soignat, il y a des concerts, spectacles, ateliers de sérigraphie, typographie, open mic. C'est au métro Grange-Blanche. Demain, à 11h, il y a un rassemblement contre le racisme dans le cadre d'une mobilisation nationale initiée par les associations antillaises Collectif d'Hommes et CM98.
Et pardon, ce rassemblement contre le racisme, il est place Antonin-Poncet, on avait oublié de se le noter, mais de mémoire, ça doit être ça. On continue demain avec une grosse journée à Vaux-en-Velin, c'est salle Victor Jara, rue Jean Lesiré. Vous trouverez les infos sur internet plus précisément. En tout cas, le débat du matin de 11h à 13h, il a l'air chouette parce que ça s'appelle « Quelle convergence face aux discriminations systémiques ?» Les intervenantes sont Abdelaziz Chambi de la Coordination contre le racisme et l'islamophobie. Vous avez aussi Almani Mamkanouté de la Brigade Antinégrophobie, aussi Hamza Aharab du MIB 34, MIB Mouvement Immigration Banlieue, aussi Farid Taalba des Échos des Cités. Alors tout ça, ça devrait changer un peu de discours conventionnel de la petite gauche blanche conventionnelle à propos du racisme. L'après-midi ensuite, ce sera des débats avec des personnalités politiques que je citerai pas ici. Mais à partir de 21h, c'est une soirée rap et slam. Tout ça, c'est à Vaux-en-Velin, salle Victor Jara, demain.
toujours demain à 15h, rassemblement contre l'agrandissement de l'aérodrome de Bron, hein, devant les portes de l'aérodrome. Donc c'est rendez-vous demain 15h devant l'aéroport de Bron.
Et on continue avec un petit rendez-vous lundi très tôt. Si vous suivez Rébellion, il y a une manchette en ce moment à propos de l'expulsion du squat au château dans le ciel au 71 quai de Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon, et avec des rendez-vous tous les jours à 5h30 le matin depuis deux jours contre l'expulsion de ce lieu qui héberge pas mal de familles et que la préf voudrait bien expulser en ce moment, mais qu'on est plein à refuser qu'il soit expulsé. Du coup, c'est encore lundi, il va y avoir une autre journée vigie, et selon certaines informations, les flics risquent de se pointer une nouvelle fois. Du coup, c'est à partir de 5h30 du matin, c'est se lever tôt, et c'est pour avoir plus d'infos, vous pouvez appeler le collectif logement dont le numéro est sur rebellion.info. Voilà pour le Canu Info du vendredi. Ce soir, on finit tôt, parce que ce soir, on n'est pas nombreux et on est fatigué. Mais on vous retrouvera avec plaisir dans deux semaines encore. Et là-dessus, bon week-end.
On vous laisse avec Noise Pollution qui arrive dans quelques minutes. En attendant, c'est les bonnes continues.